Matthieu 12. Et nous allons lire ensemble les versets 22 à 50. Pour ceux qui viennent de recevoir une Bible, le passage se trouve à la page 962 de votre Bible, comme ça, ça peut vous aider à trouver le passage. Matthieu 12, on lit ensemble les versets 22 à 50. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule, étonnée, disait, « N'est-ce point là le fils de David? » Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement, il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchant comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. »
Tout un passage, assez long. Pardon, j'achève mon petit rhume. Dans une première lecture, il peut avoir de l'air assez décousu comme passage. D'accord? Il y a beaucoup de stock. On dirait qu'on s'en va un petit peu partout. Il y a différentes scènes, tout ça. Maintenant, c'est un passage en réalité qui est uni. Il y a une phrase de Jésus, je vais la lire à quelques reprises tantôt, qui revient, qui se répète à l'intérieur du passage. Et ce qui unit tout le passage, ben, je vais le résumer avec une question. C'est comme si Jésus est en train de poser une question. Quelle position adoptez-vous à l'égard de Jésus-Christ? Quelle position adoptes-tu personnellement à l'égard de Jésus-Christ? Et c'est la question qu'il y a dans tout le passage. Maintenant, lorsqu'on lit une première fois comme ça, rapidement, on peut voir qu'il y a... Rapidement, on voit qu'il y a deux groupes. En réalité, il y en a trois. D'accord? Il y a trois groupes d'individus ou d'auditeurs de Jésus ici dans le passage. Le premier groupe, je vais les appeler les neutres. Et juste pour être visuel un petit peu ce matin, les neutres sont ici ce matin, d'accord? C'est vous les neutres. Les neutres, eux autres, ils regardent Jésus, mais ils n'ont pas pris de position encore. C'est bon? Deuxième groupe, celui qui est le plus évident, c'est ceux qui sont agressivement opposés à Jésus, c'est vous. D'accord? Alors ça ici, c'est le groupe des opposants à Jésus-Christ. Agressifs, ils attaquent. Très évident, c'est le groupe le plus évident. Et l'autre groupe, on va le mettre ici à droite, c'est ceux qui ont décidé de croire en Jésus-Christ. OK? Alors, il y a trois groupes. Deux sont évidents, comme j'ai dit. Un l'est un petit peu moins. On va juste aller les situer, les voir dans le passage. Évidemment, celui qui est le plus évident, c'est vous ici qui êtes devant moi. C'est le groupe des opposants. C'est ceux qui attaquent, c'est ceux qui ne croient pas, ceux qui doutent, ceux qui remettent en question, ceux qui s'en prennent à Jésus. Et ils sont très agressifs. Ils vont le traiter de charlatan. Pas qu'ils doutent qu'ils soient en train vraiment de faire un miracle. Mais ils vont dire des choses assez odieuses, aller jusqu'à dire, « Mais les miracles que tu fais sont en réalité des œuvres du diable. C'est le diable qui les fait à travers toi. Ce sont des esprits impurs que tu es en train de chasser, mais tu le fais par le diable. » Leur opposition à Jésus est publique. Et cette voix-là est présente dans notre société aujourd'hui. Des gens qui s'opposent ouvertement à la foi en Jésus-Christ, c'est présent dans notre société. Ça m'a frappé, mon message était pratiquement terminé, tout ça, vendredi soir, j'allume la télé, juste un petit peu avant d'aller me coucher, puis je tombe à Radio-Canada sur La Fosse aux Lionnes. J'écoute jamais ça, je connais pas vraiment l'émission, mais bon, en quelques secondes, j'entends le mot « religion ». Je me suis dit, je vais écouter ça. Et puis, il y a une des animatrices, vous connaissez l'émission? C'est plein d'animatrices qui sont assises autour d'une table, puis qui jasent tout ça, puis qui émettent des opinions un peu sur tout. Fait que là, c'était la religion. Il avait décidé que c'était le sujet. Je ne sais pas pourquoi on parle beaucoup de religion de ce temps-ci au Canada. Mais donc, on commence à parler de ça. Puis une des animatrices dit, candidement, elle dit, écoutez, on va être sérieux, là. Croire dans tout ce que dit la Bible, là, c'est niaiseux. C'est-tu niaiseux? J'en revenais pas. Je venais juste d'allumer, puis en 30 secondes, on est en train de me traiter de niaiseux à TV. Tout d'un coup, comme ça. Je sais pourquoi je m'y fais jamais vraiment, là. Je devrais. Mais c'est ça. C'est là. Cette voix-là est très, très présente. Des gens qui vont s'opposer, puis c'est ça. On a le politiquement correct où on veut au Québec, hein? Sur les choses qu'on désire. C'est là. C'est présent dans notre société. L'autre groupe, le deuxième groupe, qui est assez évident quand même aussi, on le retrouve à la toute fin de ce que Alex nous a lu ce matin au verset 46 à 50. C'est le groupe des gens qui ont décidé de croire en Jésus. Ils ont reçu ses enseignements. Ils ont cru en lui. Ils sont avec lui dans la maison. Dans la maison, il y a la foule, mais il y a aussi ceux qui ont cru qui sont là. Et Jésus va jusqu'à les appeler ses frères et ses sœurs, sa mère, parce qu'ils croient en lui, parce qu'ils cherchent à faire la volonté de son Père qui est dans les cieux. Cette voix-là aussi est présente dans la société. D'accord? Plus dans d'autres sociétés, peut-être un petit peu moins dans la nôtre. Si vous allez en Amérique latine, très, très présent. Si vous allez en Corée, extrêmement présent. Un peu moins, mais c'est là. La preuve, on est ici ce matin. C'est là, on l'entend aussi aujourd'hui. Des gens qui ont cru dans ce que Jésus affirmait être. Il y a un troisième groupe dedans qui est moins évident dans le passage. Moi, je suis convaincu qu'il est là. Jésus est en train de s'adresser à eux. Et c'est plus la foule en général qui sont là. Ce sont des gens qui, ils ont remarqué Jésus. Ils sont impressionnés par lui, par des miracles qu'il fait, par des paroles qu'il dit. Mais ils se gardent une petite gêne. Ils n'ont pas encore pris de décision pour Jésus-Christ. On les voit apparaître plus concrètement au verset 23. Jésus fait un miracle devant eux, puis là, toute la foule, étonnée, disait, « N'est-ce point là le fils de David? » Et ici, ce n'est pas une exclamation. Vous savez, la foule plus tard, si vous êtes familier avec les évangiles, plus tard, la foule à l'entrée de Jésus dans Jérusalem, l'entrée triomphale, on l'a appelé comme ça parce que la foule va soulever Jésus-Christ littéralement. « Hosanna au fils de David! » Puis ils sont emballés, tout ça. On sait ce que ça vaut parce que c'est « Hosanna! Hosanna! » Puis quelques temps après, c'est « Crucifie-le! Crucifie-le! » Donc, c'est de l'exaltation. OK, il était enthousiaste. Ça n'avait peut-être pas beaucoup, beaucoup de profondeur à ce moment-ci. Mais c'est pas ça qui est ici dans le passage. C'est pas une déclaration, c'est pas de l'exaltation, c'est une question qui est ici. Ils le voient aller, ils sont impressionnés, ils ont une certaine admiration pour Jésus. Écoutez, il faisait des miracles, il avait des paroles de sagesse extraordinaires. Alors, ils sont là et puis ils regardent, puis ils se posent des questions sur Jésus. Ils le trouvent intéressant, ils ont un respect pour lui. Mais il reste des questions. Pour faire un parallèle avec l'actualité de ce temps-ci, disons que Jésus, par ses miracles et par ses paroles de sagesse, a marqué des points avec ces gens-là. D'accord? Mais il n'y a pas leur vote. Pas encore. C'est le camp des indécis. Et c'est la seule allusion que je vais faire à la politique. Trouvez-en pas d'autres dans mon message. Ça serait complètement faux. Mais ce camp-là, c'est le camp des indécis. Ils sont impressionnés. Il a marqué des points. Ils n'ont pas fait de choix encore. Ils n'ont pas pris de décision encore. Ils sont encore en train d'examiner Jésus, de s'interroger. Et dans notre société, beaucoup de gens font partie de ce groupe-là. Moi, je dirais la majorité des gens. Ce n'est pas la majorité des personnes qui sont ouvertement agressifs à l'égard de Jésus-Christ. Ce n'est pas vrai. En fait, la majorité des gens vous diraient, généralement, ils vont le classer parmi les grands sages des temps anciens. Jésus, c'est quelqu'un qui a apporté des paroles de sagesse. Ils vont le classer parmi tous ces grands sages qui ont traversé l'histoire de l'humanité. Donc, ils ont une certaine admiration pour lui. Ils sont impressionnés par des choses qu'il a dites. Par exemple, ils pourraient le classer avec Salomon. Et Jésus fait exprès. Il nous parle de Salomon ici. Ils vont dire, « Ah, c'est comme Salomon, ce roi qui était sage. Jésus était comme ça, c'est un grand roi sage. » Et là, Jésus nous rappelle ici une situation qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Il faut être familier avec l'Ancien Testament pour s'en rappeler. Mais la reine de Séba, qui était une reine, qui était riche, est partie de son pays pour venir rencontrer Salomon et simplement entendre sa sagesse. Les gens sont respectueux envers des paroles de sagesse. Elle voulait l'entendre de ses propres oreilles. Mais au verset 42... Jésus prend le temps de dire qu'il est beaucoup plus que Salomon. Jésus n'est pas qu'un grand sage parmi tous les sages. Oui, c'est un sage. Mais il prend le temps de déclarer qu'il est beaucoup plus que Salomon. Il n'est pas à classer seulement parmi les grands sages. Donc, dans le passage ici, Jésus va généralement s'adresser à vous, ceux qui sont ouvertement opposés, d'accord? Il va s'adresser à ceux qui sont agressifs contre Jésus, qui ont des doutes, mais pas juste des doutes, qui prennent position contre lui. Et généralement, il va interagir avec eux directement. Ceux qui sont agressifs contre lui, contre la foi. Et remarquez bien que Jésus prend le temps de leur répondre. Si on prenait 2-3 dimanches juste sur l'argument que Jésus fait ici, Jésus entre vraiment dans une discussion avec eux et il va répondre à leurs arguments et il le fait très bien. Si vous prenez le temps d'aller relire le passage et de voir comment Jésus défait les attaques qu'ils font, il prend le temps de répondre à leurs attaques, à leur argumentation. C'est surprenant parce que Jésus connaît leur cœur. Jésus connaît leur cœur. Il sait que ceux qui sont ouvertement opposés, comme ça, très agressifs, sont fermés. Ils ne sont pas dans une attitude d'ouverture du tout, du tout. Ils ne veulent pas vraiment connaître Jésus. Ils sont dans un débat. Il n'y a pas de dialogue, là, ici. Ce n'est pas des gens qui disent, « Ben, fais-nous connaître qui tu es, on aimerait ça, on est intéressés, on est curieux, on va vraiment t'écouter. » Pas du tout. Jésus connaît leur cœur. Et pourtant, il prend le temps de leur répondre. Et Jésus est très sévère envers eux. Il les juge sévèrement. On le voit par une série de paroles. Il va parler à plusieurs reprises du jour du jugement. Regardez rapidement dans le passage, le verset 27, il dit, « Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? » Dans la littérature de l'époque, on trouve des hommes de Dieu qui aussi chassaient des démons. Alors il dit, par qui le font-ils si moi je le fais? Eh bien, il dit, c'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. De quoi il parle ici, c'est pas encore clair, mais de plus en plus, ce thème du juge, du jugement, va revenir dans le passage, puis on va comprendre qu'il est en train de parler du jour du jugement. Au jour du jugement, vos fils se lèveront contre vous. Très sévère dans ce qu'il dit envers eux. Un tout petit peu plus loin, au verset 32, il dit, « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » En d'autres mots, Jésus est en train de dire, « C'est une chose que vous doutiez de moi quand vous m'écoutez parler. Mais si vous voyez que ce que je suis en train de faire, c'est une œuvre de Dieu, c'est par la puissance de l'Esprit-Saint que tous ces miracles et que toute cette sagesse et que tout cet amour vient. Vous devriez au moins reconnaître les fruits. Ce sont de bons fruits que je porte. » Un peu plus loin encore dans le passage, au verset 41, il va dire, et là il fait allusion à un récit dans l'Ancien Testament, je vais revenir un petit peu plus loin là-dessus. « Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement, parce que la ville de Ninive s'était repentie lorsqu'elle a été mise en garde, alors qu'eux autres ne se repentent pas. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. » Encore verset 42, « La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération. Elle a été touchée juste par la sagesse de Salomon. » Et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Mais ça ne vous suffit pas. Voyez-vous, il est en train d'adresser un jugement sur ces gens-là qui sont ouvertement opposés à lui, qui l'attaquent directement. Et ça continue à la fin du verset 45. Elle est à la toute fin, la dernière phrase. « Il en sera de même pour cette génération méchante. » Il y a donc ce groupe qui s'oppose à Jésus, qui le rejette ouvertement et publiquement, qui l'attaque directement, même lorsqu'il fait des miracles, il trouve toutes sortes d'interprétations, il trouve quelqu'un d'autre à qui l'attribuer pour ne pas le reconnaître. Ils sont opposés, mais Jésus prend le temps de leur répondre. Jésus prend le temps de répondre à leurs arguments. Et moi, je vois déjà une leçon ici dans le passage pour nous, qui sommes chrétiens. Pour nous qui avons adhéré à la foi en Jésus-Christ, qui avons été touchés par Jésus-Christ. Quand dans une conversation avec des gens autour de la table, je pense aux jeunes qui sont au cégep, à l'université, mais aussi tous ceux qui sont sur le marché du travail, autour du lunch, et des fois dans nos familles, avec nos amis, quand des fois dans une conversation, quelqu'un va commencer à vous prendre à partie à cause de votre foi. Quelqu'un va commencer à vous attaquer à cause de votre foi. C'est vraiment important de prendre le temps de répondre humblement, mais de prendre le temps de répondre. Vous percevez qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange, la personne est fermée, c'est juste des attaques. Ça se peut qu'à un moment donné, la sagesse, ce soit juste de se retirer, de se taire, et de faire preuve d'humilité, c'est vrai. Mais en même temps, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de dialogue avec cette personne-là qui est agressive, que vous devez vous arrêter là. C'est important de prendre le temps d'écouter ses objections, d'écouter ses attaques et d'apporter des réponses à ses attaques. Jésus le faisait ici. Pourtant, il savait très bien que ces gens-là étaient fermés. Ces gens-là étaient agressifs envers lui. Pourquoi Jésus prend le temps de le faire? Il y a d'autres personnes qui sont en train d'écouter la conversation. L'échange entre les opposants et Jésus. Il y a d'autres auditeurs. Et pendant que vous êtes attaqués, pendant qu'autour du lunch, à un moment donné, il y a quelqu'un qui commence à poser une question gentille, simple. « Hey, j'ai entendu dire que tu allais à l'église, toi. » Puis là, moi, vous dites « Hey, c'est super, commencer à parler de ma foi, tout ça. » Puis là, à un moment donné, ça commence à déraper. Vous savez, il y a quelqu'un dans le groupe qui a besoin d'attention, il n'a pas dit un mot encore, puis tout ce qu'il trouve à dire, c'est quelque chose pour se moquer, puis rentrer dans la conversation. Mais là, ça commence à déraper. C'est important d'écouter quand même ça, et d'aller vers ça, et de donner des réponses. De donner des réponses à ces gens-là. On ne sait jamais comment Dieu est en train de travailler dans les cœurs. On ne peut pas présumer de ça. Et Jésus, alors qu'il est attaqué par des gens, il aurait tout simplement pu dire, écoutez, ça vous intéresse pas ce que j'ai à dire. Vous croyez pas en moi, j'ai fait tous les miracles, oubliez ça. Prends le temps de leur répondre. Parce qu'on ne sait pas comment Dieu travaille. Dieu travaille de manière mystérieuse. Dieu travaille de manière mystérieuse et on ne sait pas comment est-ce qu'il travaille. Et même des fois, les gens les plus opposés, les gens les plus agressifs, des fois, c'est juste une façade. Hein? On ne sait pas quand quelqu'un est à un cheveu de laisser tomber les armes et dire, écoute, je t'attaque depuis toujours, mais vraiment, j'ai de l'admiration pour toi. Puis il y a quelque chose qui se passe dans ma vie dont j'aimerais te parler. On ne sait pas. On n'a pas les réponses là-dessus. Mais plus que ça encore, c'est important de prendre le temps de répondre parce que ces gens-là ont des bonnes questions. C'est vrai que lorsque ça dérape, des fois, ça devient de la moquerie, puis il n'y a comme pas de bonne réponse à dire à quelqu'un qui se moque. Il m'est arrivé même de me servir de ce passage dans les Proverbes qui dit « Réponds à l'insensé selon sa folie, de peur qu'il ne se croie sage. » Fait que des fois, il n'y a comme pas de bonne réponse à dire quand la personne commence à se moquer. Mais souvent, il y a des très, très bonnes questions qui sont posées. Ce sont des bonnes questions. Comment tu fais pour croire, toi, en un être invisible? Puis ce texte-là qui a été copié tellement de fois, comment tu fais pour t'y fier? Comment tu fais pour croire là-dedans? Moi, j'ai jamais parlé à Dieu, j'ai jamais vu Dieu, j'ai jamais vu de mes yeux. C'est des bonnes questions, ça. Et Dieu ne demande pas aux gens de mettre de côté leur intelligence lorsqu'ils viennent à la foi. C'est pas vrai, ça. Moi, ça n'a pas été ma démarche, personnellement. Ça n'a pas été ma démarche. Ma démarche, ça a été une démarche de foi, c'est vrai, mais j'avais de bonnes questions à poser aux chrétiens puis à poser à Dieu. Et il fallait qu'il me donne les bonnes réponses. Alors, ça se peut que la personne vous arrive avec des questions, des attaques, mais en réalité, c'est une déclaration, c'est une affirmation, il y a une réponse à apporter. Ça se peut que vous n'ayez pas la réponse. Ça se peut que vous êtes bouché. Ça n'arrive jamais, ça? Je ne sais pas quoi dire. C'est quoi la bonne réponse à dire dans ce temps-là? La vraie? Sais-tu, c'est vraiment une bonne question que tu me poses. Puis c'est important que j'ai une réponse à ça. Je peux me la poser pour moi-même, pour ma foi. On n'a pas à se retirer. Hein. Ce que Jésus a déclaré sur lui-même, il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » S'il est la vérité, Jésus peut être examiné. S'il est la vérité, Jésus peut être examiné. Jésus peut supporter les examens. Alors, si je n'ai pas la bonne réponse, si je ne sais pas c'est quoi, pas de problème. Sais-tu quoi? Je te reviens là-dessus, par exemple. Parce que moi, avec, je suis curieux de voir c'est quoi la bonne réponse. Et c'est important de revenir. Voyez-vous, Dieu ne demande pas aux gens de mettre de côté leur intelligence lorsqu'ils adhèrent à la foi chrétienne. C'est pas vrai, ça. C'est vrai qu'il y a une part de foi. C'est la foi. Dieu, je n'ai pas encore serré la main. C'est vrai. Mais en même temps, j'avais des bonnes questions. Et j'allais pas venir à la foi chrétienne en mettant de côté mon intelligence. Au contraire, ma démarche à moi, ma conclusion, ce qui a fait que j'ai adhéré au christianisme, c'est que pour moi, c'était la foi la plus intelligente. C'était ça qui avait le plus de sens. De tous les systèmes qu'on me présentait, de tous les systèmes de foi. Et comprenez bien que l'athéisme ou toutes les religions, il y a toujours une part de foi là-dedans. Il y a des dogmes, des affirmations, des absolus dans tous les systèmes. Affirmer que Dieu n'existe pas, ça prend beaucoup de foi parce que tu ne peux pas le démontrer. Alors, il y a toujours de la foi. Mais moi, dans tous les systèmes de foi qu'on me présentait, après qu'on ait répondu à toutes mes questions, c'est le christianisme. Parce qu'on m'avait donné des bonnes réponses, qui avaient le plus de bon sens. Et ça, c'est le pas de foi que j'étais prêt à faire. Et c'est certain qu'une des réponses que les chrétiens devaient me donner et qu'ils m'ont donné passait par l'Évangile. On va revenir là-dessus. Mais c'est important de prendre le temps de répondre. Il y a des gens qui vont venir à la foi, vous leur présentez l'Évangile pour la première fois. Ils vivent des choses dans leur vie, ils vivent des drames dans leur vie. Et lorsqu'ils entendent le pardon, la grâce, la vie nouvelle qui est possible de trouver en Jésus-Christ, ça règle tout. Il n'y a pas d'autres questions intellectuelles. C'est « Moi, je peux recommencer à neuf. » Je peux être pardonné après ce que j'ai fait. Ouh, il embrasse la foi. Il y a des gens comme ça. Souvent, même ces gens-là, après, vont les avoir les autres questions. Les questions plus intellectuelles. Les doutes. qui viennent dans leur esprit. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent trouver des réponses avant de venir à la connaissance de Jésus-Christ, avant d'accepter Christ. Et Jésus est en train de le faire ici. Jésus est en train de donner des réponses. Alors, je veux vous encourager. Pour moi, c'est pratique, là, ce que je vous dis. Allez chercher les réponses. Vous avez été bouché? Arrêtez pas ça, là. Allez chercher les réponses. En sortant, allez vous acheter « Dieu au banc des accusés » de C.S. Lewis. Un classique, OK? On appelle ça de l'apologétique, la défense de la foi. Allez acheter ça, étudiez-le, pratiquez-le. Vous allez vous faire mettre en boîte la première fois. C'est correct, c'est pas grave. Mais ça va solidifier votre foi. Et il y a des gens à qui vous allez partager la foi qui ont besoin d'avoir des réponses parce qu'ils posent des bonnes questions. Mais lorsque Jésus est en train de donner ses bonnes réponses à ses opposants, à ce groupe-là qui est devant moi, qui est agressif contre lui, quand Jésus est en train de donner les bonnes réponses à ce groupe-là, il est conscient qu'il y a un autre groupe, qui est le groupe des indécis, qui est en train d'écouter comment, pour voir comment il va s'en sortir de ça. Quelle réponse lui va apporter? Et Jésus a conscience de ce groupe qui est plus neutre, disons. Il les adresse moins directement dans le passage. Pourtant, je trouve qu'il s'adresse à eux quand même. On les a vus apparaître au verset 23, Matthieu 12, 23, la foule qui pose la question. Et puis, ils se disent, n'est-ce pas là le fils de David? Puis là, tout de suite, les pharisiens veulent récupérer ça avant que ça dérape, avant qu'on conclue que ce serait peut-être le fils de David. Et là, ils commencent à l'attaquer. Mais Jésus est conscient que la foule est là. Tous ces indécis qui se posent des questions. Et au verset 30, je crois que c'est à eux qu'il parle. Verset 30, il dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » C'est fort ce qu'il dit là. En d'autres mots, Jésus est en train de dire, la neutralité à l'égard de Jésus, ça n'existe pas. Vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi. Vous croyez en Jésus ou vous rejetez Jésus-Christ. Jésus est extrêmement intransigeant ici. Il ne négociera pas là-dessus. Lorsqu'on saisit ce message-là dans les Écritures, c'est facile de comprendre que des gens qui n'adhèrent pas à la foi chrétienne nous trouvent prétentieux. Vous prétendez avoir la vérité, vous autres. Hey, c'est prétentieux. Mais oui, à quelque part. Je veux dire, si vraiment tu es convaincu que Jésus, c'est le seul chemin, vous réalisez, ça veut dire qu'il y en a combien qui étaient dans les patates? Ça en fait là, des prophètes, des enseignants, des dirigeants religieux qui étaient dans l'erreur. Beaucoup, 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 beaucoup. Il y a quelque chose de très intransigeant ici. Il faut l'assumer. Humblement, oui, c'est ça ma conclusion, c'est que il n'y a personne qui est aussi hot que lui. Personne. Qui a fait ce que lui a fait? Personne. Si Dieu est venu parmi les hommes, c'est à travers lui que ça s'est fait. Et il faut l'assumer. Puis c'est simple de comprendre pourquoi Jésus est tellement intransigeant. Jésus dit, s'il y a un seul sauveur qui est venu parmi les hommes pour donner sa vie pour le salut des hommes, tu crois en lui ou tu le rejettes? S'il y a un seul chemin, tu crois en lui ou tu le rejettes? Pensez-y, à la fin de l'évangile de Matthieu, si vous êtes familier avec Matthieu, à la fin de l'évangile, Jésus va dire à ses disciples quelque chose de scandaleux pour notre époque aujourd'hui. On est supposé être dans une époque très, très pluraliste où tu as le droit d'avoir toutes tes vérités. D'accord? À la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus dit à ses disciples, « OK, je vous ai enseigné, je vous ai tout donné, maintenant voici ce que vous allez faire. Vous allez partir, vous allez parcourir toute la terre puis vous allez faire des disciples de Jésus-Christ partout. » On appelle ça du prosélytisme. Jésus, il dit, tant qu'ils ne seront pas tous chrétiens, il y en a encore à sauver. C'est provocateur pour notre époque aujourd'hui. Cherche la chicane, vas-y, dis ça. Mon agenda à moi, c'est de vous convertir toute la gang ici. Vous êtes tous dans l'erreur, je veux tous vous conduire à Jésus. C'est ça qu'il dit. Mais Jésus avait cette conviction profonde qu'il y a un seul chemin, un seul moyen d'être réconcilié avec le Père. Un seul chemin pour être réconcilié avec le Père. Et c'est ce qui l'amène à dire, si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi, si vous n'assemblez pas, vous dispersez, il n'y a pas de neutralité avec moi. Vous êtes avec ou contre. Parce que je ne suis pas qu'un grand sage comme Salomon. Je suis beaucoup plus que Salomon. Je ne suis pas qu'un grand sage comme les autres. Et soit dit en passant, Salomon n'a jamais dit « croyez en moi ». Jamais. Et Gautama, le fondateur du bouddhisme, a jamais dit croyez en moi. Confucius non plus a jamais dit croyez en moi. Mahomet a jamais dit croyez en moi. Jésus a dit croyez en moi. Alors, il y a tort ou il y a raison. Mais ça ne peut pas être les deux. Ça ne peut pas être les deux. Seul Jésus a affirmé cela. Parce qu'aucun d'eux, aucun d'eux, de tous ces prophètes, de tous ces chefs religieux, aucun d'eux n'a donné sa vie pour le salut des hommes. Seul Jésus-Christ l'a fait. Alors, je reviens dans mon passage, verset 38. Au verset 38, les pharisiens font quelque chose d'un petit peu étrange dans le contexte, d'accord? Regardez bien ce qu'ils disent. « Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, excusez-moi de le dire comme ça, mais je pense que ça ressemble un petit peu à ça. « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » C'est quand même étrange parce qu'il vient juste d'en faire un. D'accord? Maintenant, il faut savoir que le mot « miracle » en grec, « séméion », peut être traduit soit par « miracle », soit par « signe ». Et donc, en d'autres mots, ce qu'ils sont en train de dire, « Nous voudrions te voir nous faire un signe et alors nous pourrons croire en toi. » Là, on sera convaincu. Et il faut savoir que dans la culture biblique, Dieu a travaillé comme ça à plusieurs reprises avec des prophètes qu'il envoyait. Encore une fois, pensez à Moïse. Quand Moïse a été envoyé, Moïse, ce juif qui a été envoyé vers Pharaon, alors que le peuple d'Égypte, le peuple juif devait sortir d'Égypte, et il fallait convaincre Pharaon de laisser Israël sortir d'Égypte. C'était leur ouvrier, c'était leur esclave, c'était eux qui faisaient toutes les basses besognes pour eux. Il fallait les convaincre que Dieu disait, faut que tu laisses partir. Ça va prendre des signes, ça. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Les 10 plaies d'Égypte. Les 10 plaies d'Égypte sont 10 signes qui sont donnés à Moïse de faire. Il est donné à Moïse de faire des miracles. Et Moïse se présente devant Pharaon, puis il dit, « Regarde, Pharaon, Dieu m'a dit qu'il fallait que tu laisses partir le peuple d'Égypte. » Ah, certain. C'est moi qui vais commencer à débûcher mon bois. Alors, Dieu m'a donné un signe. Dieu m'a donné un deuxième signe, un troisième signe, un quatrième. Puis il lève le ton. Finalement, Pharaon va comprendre que les signes sont vraiment des signes. Dieu a toujours travaillé comme ça, à plusieurs reprises. Et c'est ça qui est en train de se passer ici, dans le passage. Les pharisiens se tournent vers Jésus, puis ils demandent un signe. Ils sont en train de dire à Jésus, « Donne-nous un signe, et là, on pourra croire en toi. » Là, on va te croire, à ce moment-là. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Jésus a donné plein de signes, il a déjà fait plein de miracles et ils ne croient toujours pas en lui. Et en ceci, les pharisiens sont faits pareil comme chacun d'entre nous. Il y a quelque chose dans la nature humaine, avec cette nature pécheresse qui est en nous, qui fait que c'est tellement facile pour nous d'être incrédules, de douter. Et écoutez-moi bien, c'est facile pour nous de douter même lorsqu'on a déjà expérimenté la foi. C'est dans notre nature avec le péché, de douter de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, c'est l'histoire d'Israël constamment. Hein? Israël s'en va à une montagne où Dieu va donner les 10 commandements. Et puis là, Dieu se manifeste de manière extraordinaire, incroyable. Tellement qu'Israël dit, « OK, arrête, 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 arrête! On croit, on croit! » 40 jours plus tard, on ne croit plus pas en tout. Et là, lorsqu'on lit toute l'histoire d'Israël, c'est comme une espèce de cycle qui revient tout le temps. Dieu se manifeste. Waouh! Dieu se manifeste. Ils sont impressionnés. Ils trouvent ça extraordinaire. Ils croient en Dieu. Ils obéissent. Doute. On recommence. Ils doutent, là, avec toutes les conséquences que ça apporte dans l'histoire d'Israël. Dieu se manifeste. Miracle. Waouh! Quelque temps après, doute. On recommence. Miracle! Waouh! Doute. Et c'est toute l'histoire de l'Ancien Testament. Et honnêtement, c'est mon histoire. C'est mon histoire à moi, ça. C'est aussi mon histoire à moi. Je ne sais pas combien de fois, ça fait 20 ans que je suis au Seigneur, que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Ça fait 20 ans que je parle avec Dieu pas mal plus régulièrement qu'avant. que j'ai saisi l'Évangile, que je vais lire la Bible, que Dieu me parle. Et combien de fois j'ai vu Dieu me parler à travers ces Écritures, des manières qui étaient, c'était trop évident qu'il est en train de s'adresser à moi, qu'il est en train de me parler, où Dieu exaucer des requêtes, des fois des requêtes, que des prières que je lui adressais même plus. J'avais des doutes, je doutais, je les adressais plus. Boum, tu le fais. Avec des coïncidences, vous savez, qui relèvent vraiment de la coïncidence divine, là. Des clins d'œil de Dieu qui sont comme trop bouleversants pour que tu dises « c'est juste un hasard ». Non, c'est un exaucement à mes prières, c'est évident. Et pourtant, je ne sais pas combien de fois, après que Dieu m'ait parlé des centaines de fois comme ça, puis que j'ai, pour ainsi dire, touché à Dieu, je ne sais pas combien de fois je me suis écrié avec ce Père dans l'Évangile de Marc qui crie au Seigneur Jésus puis qui dit « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité ». Parce que je traverse une période où j'ai l'impression que ça fait une éternité que Dieu ne m'a pas parlé, puis il n'y a plus rien à me dire, puis j'ai l'impression que Dieu est loin de moi, puis là, je commence à avoir toutes sortes de doutes. C'est mon histoire, ça. Alors, vous savez, quand mes enfants qui ont 8 et 10 ans viennent me voir, puis à un moment donné, un des enfants vient nous voir, puis il nous dit « Papa, des fois, j'ai des doutes sur l'existence de Dieu. » Je leur dis « C'est normal. » Papa aussi, des fois, il y a des doutes sur l'existence de Dieu. Mais c'est ça, la vie par la foi. C'est ça, la vie par la foi. C'est croire avec une ferme assurance dans des choses qu'on ne voit pas encore. C'est ça, la foi. Et pourtant, lorsque je me retrouve seul, je me retrouve toujours à commencer à parler avec Dieu. Des fois, même pour lui dire, « Dieu, il faut que je te parle parce que je doute de toi. » Vous voyez, c'est mon histoire. Mais je reviens toujours à la foi en Jésus-Christ. Je reviens toujours à Dieu et je reviens toujours à la foi en Dieu pour une raison. C'est parce que j'ai cru et j'ai saisi de tout mon cœur, avec tout ce que j'ai d'intelligence, le seul miracle qui importe de saisir pour avoir la foi. J'ai compris le seul miracle qui est important de comprendre pour bâtir toute notre foi. Jésus leur dit dans le passage ici, je vais m'expliquer, « J'aurai beau vous faire tous les miracles du monde, faire tous les signes que vous voulez, vous ne croiriez pas davantage. » Il y a un seul miracle que je vais vous donner et qui devrait suffire à votre foi. Un seul miracle devrait suffire à votre foi, point final. Et Jésus avait raison. Le signe dont Jésus parle ici, c'est celui qui m'a amené à la foi. C'est le miracle qui m'a bouleversé, moi. C'est celui auquel je retourne toujours lorsque j'ai des doutes. C'est vraiment le rocher sur lequel je dépose toute ma foi en Dieu, en cet être qui est invisible. Jésus avait raison. Jésus avait raison. C'est la réponse que les chrétiens devaient donner à mes questionnements. C'est la réponse que Dieu devait donner pour que j'adhère à la foi chrétienne. Ce seul miracle-là. Alors Jésus leur dit ici dans le passage, le seul miracle qui vous sera donné, c'est le miracle de Jonas. Je suis dans les versets 38 et suivants. Il leur dit au verset 39, une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas, aucun autre. Maintenant, juste pour se remettre dans le contexte, Jonas était un prophète dans l'Ancien Testament. Jonas était un juif qui a été envoyé. Dieu lui dit, tu vas aller avertir la ville de Ninive, une ville de non-juifs qu'il haïssait à mort. Puis il leur dit, je me prépare à les juger, à les frapper, alors tu vas aller les avertir afin qu'ils se repentent et que je ne les frappe pas. Jonas s'est dit, il n'y en a pas question. Frappe-les! Ouais! J'irai pas! Alors pour faire une histoire courte, Jonas veut fuir devant l'exhortation que Dieu lui donne. Alors finalement, Jonas est sur un bateau. Dieu envoie une tempête sur l'eau. Et puis là, les gens commencent à paniquer. Puis là, Jonas leur dit, bon, c'est correct. C'est à cause de moi. C'est parce que je ne veux pas aller avertir Ninive. Fait que jetez-moi par-dessus bord, puis vous devriez vous en sortir. Et comme de fait, hein, pour faire une histoire courte, il le jette par-dessus bord, un poisson vient, il l'avale. 3 jours plus tard, pouf, il est rejeté sur la rive. Là, Jonas a compris. Je pense que s'il avait continué à s'entêter, Dieu aurait demandé aux Ninivites de venir avertir Jonas du jugement qui s'en venait sur lui. Mais il a compris à ce moment-là. Alors, il est allé vers les Ninivites, il les a avertis et ils se sont repentis. Là, il a pleuré après, il n'était pas content. Bon. Incroyable. Incroyable. C'est comme si tu avais un voisin que tu n'aimais tellement pas que tu priais pour qu'il ne se convertisse pas et qu'il est au ciel. Ça ressemble à ça, là. Qu'il ne se convertisse pas et qu'il est en enfer. Excusez-moi. Alors, une histoire incroyable, hein? Une histoire aussi difficile à croire que la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Aussi difficile à croire que dans l'existence de Dieu. Je trouve que Dieu est incroyable de faire ces interventions miraculeuses pour nous aider justement à aller saisir ce qui est invisible à nos yeux. Et Jésus leur dit, c'est le seul miracle qui va vous être donné, le seul signe qui va vous être donné, parce que de la même manière que Jonas a été dans le ventre du poisson 3 jours, 3 nuits, de la même manière, le Fils de l'homme, et il est en train de parler de lui, va être dans le sein de la terre, va être enseveli pendant 3 jours, 3 nuits. Et Jésus est en train de faire allusion ici au seul miracle qui peut régler tous les problèmes de vos doutes à l'égard de Jésus-Christ. Il est en train de faire allusion à sa crucifixion, à son ensevelissement et à sa résurrection. C'est le seul miracle que vous pouvez et que vous avez à croire qui va venir régler tous vos doutes. Lorsque tu saisis ce miracle-là, lorsque tu comprends ce que Dieu, ce que Jésus a accompli en étant mort sur cette croix, enseveli sous terre, ressuscité le troisième jour, quand tu comprends cela, quand tu saisis ce miracle, tes doutes disparaissent. Lorsque tu saisis ce que Jésus-Christ a accompli à la croix, tes doutes disparaissent et tu peux commencer à croire en Jésus-Christ. Quand j'ai compris ce que Jésus a accompli à la croix pour moi, quand j'ai compris qu'à travers la croix, à travers sa mort et sa résurrection, une vie nouvelle m'était offerte, je pouvais trouver la paix pour toutes les bêtises que j'avais faites et toutes celles que je ferais plus tard. Quand j'ai compris que toutes les offenses que j'ai pu faire à l'égard de Dieu ou envers les gens autour de moi pouvaient être effacées, pardonnées. Je ne pourrais pas toutes les réparer, mais toutes pardonnées, avec une vie nouvelle qui commence. Quand j'ai saisi la croix de Jésus-Christ, mes doutes sont disparus. Et j'ai dit ça là, c'est la foi la plus intelligente qu'on va jamais pouvoir me présenter. Parce qu'une vie nouvelle m'est offerte en Jésus-Christ. Un nouveau départ m'est ouvert. Une réconciliation avec Dieu m'est ouverte. Et lorsque j'ai des doutes dans ma vie chrétienne, parce que j'ai l'impression que Dieu est loin de moi, Dieu a pris de la distance par rapport à moi, c'est toujours là que je reviens pour trouver la foi. C'est mon expérience à moi, je reviens toujours à la croix. Et je dis, Dieu, si tu existes, il fallait que ça se passe comme ça. Un Dieu d'amour, un Dieu saint, un Dieu juste, qui me donne une vie nouvelle, un nouveau départ. Il fallait que ça se passe comme ça. Il fallait que ça commence là. Le jour où vous allez saisir ce miracle-là, vos doutes vont disparaître. Alors pour ceux qui sont chrétiens ici ce matin, prenez le temps de répondre aux questions des gens. Il y en a qui vont être agressifs. Il y en a qui vont vous maîtriser. Ça fait partie de la game. Je veux dire, Jésus a été crucifié. C'est quoi, là, pour nous? Quelques questions, un peu de mépris, quelques moqueries. C'est quoi? C'est... Honnêtement, ça n'a aucune importance. Prenez le temps de répondre aux questions parce qu'ils ont des bonnes questions et vous ne savez pas comment Dieu est en train de travailler dans les cœurs. Mais non seulement cela. Gardez toujours à l'esprit que ce que vous voulez faire, c'est les conduire au miracle de Jonas, à l'Évangile. Parce que c'est lorsqu'ils vont saisir ce miracle-là que toute l'argumentation va tomber. Tous les débats vont tomber parce qu'ils vont vouloir sauter dans les bras de Dieu et accueillir son pardon et son amour et vivre pour Jésus-Christ. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, tu as accompli le miracle de Jonas, Seigneur. Combien de fois j'aurais aimé que tu apparaisses devant moi, que des anges m'apparaissent, Seigneur, que tu deviennes plus tangible à ma foi. Mais chaque fois, Seigneur, je retourne à la croix et je vois que la croix est vide, qu'il n'y a plus personne de pendu sur ce bois, que Jésus-Christ est vivant et qu'en lui je trouve une vie nouvelle. Sois béni, Seigneur Jésus. Envoie-nous, Seigneur, pour proclamer ce message, pour conduire les gens vers ce seul miracle qui va réconcilier, faire taire tous leurs doutes, Seigneur. Donne-nous le courage d'être un peuple qui se tient debout comme toi, qui fait face aux attaques. On n'est pas toujours à la mode, Seigneur, mais donne-nous cette force, ô Dieu, d'être comme toi, Jésus, de se tenir debout, de répondre aux questions, humblement, avec grâce, avec douceur, avec affection. Mais donne-nous, Seigneur, le courage de le faire. Et viens nous surprendre. Viens nous surprendre, Seigneur, en conduisant des gens au pied de la croix. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.